Et il est 8h41 minutes. Bonjour Mathieu.
Bonjour Louis.
Alors parlons techno un peu. Le site The Verge qui soulève le délicat droit à la réparation en milieu hospitalier.
Et je ne pensais pas que c'était un enjeu dans le milieu hospitalier. Le droit à la réparation, c'est essentiellement de pouvoir réparer ces objets. Évidemment, dans le cas qui nous occupe, bien souvent des objets technologiques ou des objets électroniques. C'est aussi avoir accès aux pièces pendant des années. Et on ne parle pas juste de réparation physique, on parle aussi de réparation logicielle, c'est-à-dire avoir des mises à jour. Et évidemment, ben c'est aussi que les pièces disponibles, que votre appareil ne dépende pas d'une pièce en plastique,
ouais.
Qui est fragile. Et si cette pièce brise, ben, ça rend l'appareil complètement désuet. Dans ce cas-ci, on parle peut-être plus d'obsolescence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, dans certains cas, c'est avoir accès à des pièces de remplacement autres que celles du fabricant sans perte de fonction. Mais voilà que The U.S. Public Interest Research Group a publié un sondage auprès de 200 professionnels de la médecine qui parle d'un manque clair de règles liées au droit à la réparation qui rend difficile la réparation ou la mise à jour de matériel médical. Et ça, honnêtement, je ne m'attendais pas à lire pareille nouvelle. Et je suis à peu près certain qu'en ce moment...
Mais donne des exemples, parce que c'est vague. Tu veux dire un appareil, par exemple, qui sert à faire des interventions qui, après utilisation, les jette. Comment c'est quoi l'exemple bon. Type?
Les problèmes qui ont été soulevés, c'est qu'un appareil, par exemple, qui peut avoir une fonction essentielle dans un hôpital,
ouais.
demande une réparation, mais une réparation qui doit être faite absolument par le fabricant. Ce qui fait que ça peut prolonger, par exemple, certains délais de réparation. C'est ce qu'on révèle dans l'article. On doit remplacer seulement avec des pièces d'origine, donc pas de pièces faites par une partie tierce. Ça peut être aussi des manuels d'instruction qui sont difficiles à trouver ou encore qui sont littéralement introuvable. Écoute, il y a une série de cas comme ça là, ça me dépassait de voir que, surtout en ces temps de COVID-19 où tout doit aller extrêmement rapidement, il y a des professionnels de la santé qui n'avaient pas toute l'information parce que certaines mises à jour ne s'étaient pas faites ou on devait payer pour faire certaines mises à jour sur certains équipements. Des informations qui leur étaient refusées. C'est des histoires assez préoccupantes, surtout dans un contexte médical, bien sûr. Et Louis, il y a des professionnels de la santé qui nous écoutent en ce moment et je suis convaincu qu'il existe des histoires comme ça aussi au Québec. Là, je te parle d'un article fait par un site américain, une étude américaine, mais écoutez, vous me contacterez si tel est le cas, mais je suis convaincu qu'il y a des appareils qui, à cause d'une mise à jour qui doit être faite selon tel ou tel protocole ou une réparation qui doit être faite par le fabricant lui-même, puis je comprends que on doit encadrer les réparations d'appareils médicaux parce que il en dépend de la sécurité, peut-être même dans certains cas de la vie des patients. Mais il doit y avoir des histoires vraiment pas commodes comme ce qui est relaté dans cet article de The Verge.
Bon, Lego et Nintendo qui jouent à fond la carte de la nostalgie.
Écoute, difficile de faire plus dans la nostalgie. Toi-même, tu as dû probablement jouer avec les deux, et les Lego et la Nintendo.
Bien sûr.
Alors là, voilà que Nintendo et Lego, ils vont encore une fois avec une collaboration. C'est-à-dire que dans une vidéo qui a été diffusée hier, on nous présente cette bonne vieille console originale de Nintendo, l'espèce de boîte à souliers grise qu'on doit faire en bloc Lego avec la manette à brancher, les cassettes. Il y a même un petit téléviseur cathodique avec une antenne, tu sais, rien n'a été laissé au hasard. Et ce qui est hallucinant, c'est que on peut aussi créer en quelque sorte des tableaux en Lego de Nintendo parce qu'il y a une petite manivelle qui permet de faire bouger le fond d'écran et il y a un petit personnage de Mario Bros qui va comme ça éviter certains ennemis qu'on aura construits en blocs Lego. On parle de 300$ pour cet ensemble carrément techno-geek nostalgique. Ça sera disponible à partir du 1er août, alors que certains crient au prix exorbitant, d'autres disent « taisez-vous et prenez mon argent maintenant et donnez-moi ce produit » parce que faut vraiment voir l'espèce de visuel pour se rendre compte qu'effectivement, ça nous replonge dans ces années 80. Et moi, bien sûr, que là, j'imagine la suite où on fait juste installer quelques petits modules électroniques et on rend cette console véritablement jouable sur un vrai téléviseur. Mais ça, c'est dans mes rêves les plus fous,
Louis. Oui, exactement. Bon, un autre coup dur pour la compagnie Huawei. Tu parles du 5G, là, les appareils de 5G, la Grande-Bretagne?
Exactement. Alors, qui ont décidé, la Grande-Bretagne, d'exclure Huawei des équipements de télécommunication du réseau 5G jusqu'en 2027. Évidemment, la Chine répond en disant qu'ils auront une série de mesures pour défendre les droits et les intérêts des entreprises chinoises. Mais je te parlais pas plus tard qu'hier du fameux téléphone de Huawei, le P40 Pro, qui malheureusement n'intégrait pas les applications de Google, étant donné que bon, la Maison-Blanche a sanctionné Huawei et d'autres pourraient sanctionner aussi des entreprises qui collaborent avec Huawei parce qu'on accuse Huawei d'espionnage potentiel. Eh bien là, c'est la Grande-Bretagne, qui n'est pas le plus petit des pays non plus, là, qui décide d'exclure Huawei pour les équipements du prochain réseau d'Internet mobile. Évidemment, la Chine trouve qu'ils se font berner littéralement par les États-Unis. Donc, il y aura très certainement peut-être pas une guerre, mais en tout cas, il y aura des échanges politiques assez nourris dans les prochaines semaines parce que c'est des contrats assez juteux.
Mais ça met de la pression sur le Canada aussi parce que le Canada, en fait, il y a une association de pays dans le monde qu'on appelle les Five Eyes, qui sont une espèce de regroupement, si on veut, de pays qui sont liés à la Grande-Bretagne avec les États-Unis pour faire de l'espionnage, entre autres. Le fameux réseau Echelon en était un membre, en fait une illustration. Les Five Eyes, c'est Grande-Bretagne, États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et parmi les cinq pays en question de cette alliance-là, il n'y a que le Canada qui actuellement a pris aucune décision sur les équipements fournis par Huawei et le 5G. Alors que tous les autres, les autres pays les ont interdits.
Puis c'est clair, net et précis. Donc, nous, on est encore, il n'y a pas de décision claire. Peut-être qu'ils avaient d'autres chats à fouetter en ces temps de pandémie, mais n'empêche que la Grande-Bretagne vient de nous montrer. Oui. Ben, c'est ça, la Grande-Bretagne vient de nous montrer le contraire. Donc, ce sera un dossier, en fait, technologiquement très intéressant, mais politiquement, ben là, je vais laisser les experts en débattre. Mais dans les deux cas, il y a des choses vraiment fascinantes et préoccupantes, assurément.
Bien, le Canada qui détient Meg Wanzhou.
En plus.
Alors, lié à une plainte qui vient des Américains concernant Huawei. Alors, c'est un méchant nid de guêpe, là. C'est une boîte de nœuds assez sévère.
C'est ici que je vais prendre mon petit dossier Huawei et le transférer à soit tantôt Raphaël Jacob ou Valérie Beaudoin, les experts en politique américaine.
C'est ça, exactement. Bon, et on en parlait un petit peu plus tôt, mais c'est intéressant, Amazon, ce qu'ils veulent faire avec le bon vieux panier d'épicerie. Eux autres, ils voudraient faire en sorte là, que tu n'aies pas de facture. Ben, en fait, oui, tu as une facture, mais tu n'aies pas à passer à la caisse, en fait.
Hey, si tu n'avais pas de facture, ça aurait été une révolution qui aurait fait plaisir à pas mal de monde. Mais allez voir Dash Cart, D-A-S-H-C-A-R-T. Évidemment, Amazon, vous avez peut-être vu ces espèces d'épiceries, là, les Amazon Go, qui sont des épiceries sans caissier, sans caissière. Donc, on fait simplement prendre les éléments qu'on a besoin. Ça ressemble plus à un grand dépanneur. Pas encore tout à fait une épicerie, mais il y a quand même une bonne variété de produits. Et il y a toutes sortes de capteurs et de caméras qui analysent que vous prenez et par la suite, quand vous sortez, vous êtes facturé. Mais ici, ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment un panier d'épicerie qu'on a littéralement bourré de capteurs pour détecter automatiquement ce que vous placez à l'intérieur du panier. Encore une fois, vous pourriez vous libérer de caissiers, de caissières. Il y aurait toujours des employés qui doivent faire le placement des produits sur les étagères, mais c'est un pas de plus vers les caisses automatiques parce que Simon Leblanc, dans un de ses spectacles, parlait des caisses automatiques qu'on a en ce moment à l'épicerie. Et quand tu arrives à une caisse automatique à l'épicerie, Louis, la première chose que tu fais, c'est que la caisse te dit « prenez le premier article, scannez l'article, mettez l'article dans le sac ». Puis Simon Leblanc, ce qu'il faisait remarquer, c'est un peu, toi. C'est pas comme ça que c'est supposé marcher, là. C'est pas dans ce sens-là, là, les directives, là. C'est moi qui devrais te dire quoi faire avec mes produits. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, Amazon est vraiment en train d'automatiser une bonne partie de notre commande. Les premiers carts, comme ça, les Dash carts, devraient arriver à Los Angeles en premier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des balances, donc, pour peser, par exemple, les fruits ou légumes que tu vas prendre. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se créer pour pallier à plein de choses, notamment le manque de main-d'œuvre.
Mais ce que je racontais ce matin aussi, c'est que si vous êtes allé faire un tour chez Decathlon, qui c'est la grande chaîne de d'équipements sportifs là, qui s'est installée au Québec depuis 2 ans à peu près, bien Decathlon a un peu ce principe-là. Quand tu arrives avec tes achats, tu mets ça, tu arrives à la caisse sans commis, là, la caisse, mettons, libre-service, tu prends tes trucs, Tu mets ça dans le... Il y a une espèce de bac. Tu mets ça dans le bac et ça calcule automatique ce que tu as, ce que tu as pris. Donc, tu n'as pas besoin
avec
de le scanner. Un système d'étiquette là, qui est particulier à chaque élément, évidemment, à chaque produit. Et là, ça calcule la facture totale, puis tu payes, puis tu t'en vas. Alors, c'est un peu le même principe qu'on a développé.
Mais j'ai l'impression que depuis, je ne sais pas, les années 80, on parle de cette espèce d'automatisation des
caisses.
C'est
comme un fantasme technologique.
Oui. Ouais. Ben là, j'ai l'impression qu'avec Amazon, on commence à s'y approcher, avec Decathlon aussi. Mais c'est drôle parce que tu parles de ces fameux petites étiquettes. Ça me rappelle la bonne époque où quelqu'un faisait des changements de pinouche ses cassettes d'un club vidéo. Là. Fait que là, tu te retrouves avec un maillot de bain à 780 $ parce que quelqu'un a mis ça à la place d'un... de l'étiquette d'un kayak.
Ouais, mais il faut que tu vérifies quand même.
ben oui, non.
Merci, Mathieu.
De rien, à demain.
Salut.